Nous avons beaucoup de salutations à donner de la part de tous ceux qui aiment le Seigneur. Et nous devons le dire simplement pour, par souci de vérité. Celui qui aime vraiment Dieu aime aussi tous ceux qui sont nés de Dieu. Celui qui a du mal à le faire se trompe lui-même. Il a revêtu un habit neuf sur une vieille nature. Celui qui a reçu une nouvelle vie de Dieu a aussi la nature de Jésus-Christ lui-même. Et la nature de Jésus-Christ est l'amour de Dieu, révélé en forme humaine. Nous ne devons pas nous efforcer d'aimer, mais aimer de tout notre cœur, même en dépit des interprétations individuelles. Nous savons très, très, très bien que c'est l'ennemi, non pas les frères bien-aimés, mais l'ennemi qui apporte la désunion dans l'Église du Dieu vivant. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas être contre un frère, mais seulement contre l'ennemi qui doit être mis hors d'état de nuire. Frère Rousse a mentionné ici un mouchoir, et je voudrais le dire ici aussi très clairement. Avec Frère Branham, c'était un peu différent. Il a d'abord, comme on peut le voir dans le film ou quelque part ailleurs, qu'un sac entier de mouchoirs a été apporté en fonction de la quantité de milliers ou de dizaines de milliers. Nous n'avions pas ce problème. Et je le dis très franchement, nous voulons tout faire de manière aussi biblique que possible. Je ne lis pas dans la Bible que Paul a prié sur des mouchoirs. Je ne lis pas qu'il les a oints d'huile, comme c'est le cas dans certaines églises du plein évangile. Mais ce que je lis, c'est qu'on prenait ces sueurs et on les apportait ensuite aux malades. Celui qui m'apporte un mouchoir, je l'utiliserai toujours. Je ne l'ai jamais dit publiquement, mais depuis des jours et des années, je suis guidé intérieurement de manière à prendre le mouchoir et à essuyer la sueur avec le mouchoir pendant la prédication, puis à le transmettre avec la foi et l'assurance que la parole prêchée deviendra une puissance de Dieu en ceux qui croient et qu'elle produira l'effet pour lequel Dieu l'a envoyé. Ça seulement en parenthèse. Je le dis aussi d'ici, je n'ai pas le temps. Le temps que j'ai, je dois le répartir et l'utiliser pour l'œuvre de Dieu. Quand je pense à tous les voyages, à tout ce qui doit être fait, il m'est difficile d'être parfois bref dans les conversations. Et je donne peut-être l'impression de ne pas être bien intentionné. Mais frère Branham a dit, je peux, ou alors je peux me consacrer à l'œuvre de Dieu, aux choses de Dieu, à la cause de Dieu ou aux hommes. J'ai toujours un peu de temps, mais des heures et des jours, je n'en ai pas. Je n'en ai pas eu, je les ai que pour la cause, pour l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur nous donne des diacres qui s'occupent des choses terrestres, qui assument des tâches. Au jour de Moïse, son beau-père, Jéthro, un païen, vint le voir et lui dit, écoute, ce n'est pas bien que tu doives tout faire tout seul. Regarde autour de toi où se trouvent les personnes qui peuvent assumer des tâches. J'aimerais bien chercher des frères qui peuvent assumer des tâches et que Dieu les bénisse et leur mette et les mettre et leur mettre cela dans le cœur, sur le cœur. Nous allons maintenant observer la parole. Je n'ai même pas encore eu le temps de lire les Saintes Écritures, je veux dire les versets bibliques pour la prédication. Mais vous savez comment nous y prenons ici. Nous croyons à la direction, à la conduite de cet esprit. Nous ne croyons pas à des prédications élaborées, préparées, écrites. Nous croyons que la parole nous parle, où que nous l'ouvrions, et que Dieu peut parler à chacun à travers chaque passage biblique et donner la réponse. Quand on lit les lettres aux Éphésiens, on sent la profondeur que Paul avait dans les choses spirituelles. Et lorsqu'il s'exclame et écrit dans la lettre aux Romains, « Oh, quelle profondeur de sagesse et de connaissance de Dieu !» Alors ce n'était pas que des mots et des paroles, c'était en lui une réalité. Il en a eu un aperçu de la profondeur, de la hauteur, de l'étendue et de la largeur du conseil divin du salut. Il a eu une profondeur, un aperçu. Et tout cela par révélation. Et nous pouvons dire la même chose. Alors que je pensais encore aujourd'hui à la réunion à Bruxelles, la parole d'Apocalypse 15 m'est venue à l'esprit. Je ne la lis pas maintenant, vous la connaissez tous. Là, il est parlé de la troupe des vainqueurs sur la mer de cristal. Et c'est là que cette pensée m'est venue. Comment est-ce que Dieu, à la clarté cristalline, donc claire comme du cristal, nous a révélé sa parole? Pour moi, elle dépasse toute compréhension. Aucun homme n'aurait pu nous la révéler si claire que ça, comme Dieu l'a fait. Les hommes ont écrit depuis toujours. Et il y a de nombreux commentaires sur la parole de Dieu. Certains vont assez loin, la connaissance a augmenté. Mais nous ne vivons pas à l'époque de la connaissance où la connaissance s'ajoute à la connaissance. Nous vivons à l'époque où Dieu révèle tout. Et je voudrais aussi le dire clairement. Quand Dieu révèle quelque chose, il y a quelque chose derrière cette révélation. Il y a quelque chose à voir derrière cette révélation. Il y a quelque chose. Il y a des gens qui parlent de révélation. Et si l'on demande, mais quel est le contenu? Quelle est la chose de cette révélation dont vous parlez? Alors, il n'y a pas de contenu. Alors, il n'y a pas de chose. Il n'y a que le concept de révélation. Et derrière tout, en fait, tout est vide. Ce n'est pas le cas avec Dieu. Lorsque les premiers mots ou lignes de l'Apocalypse 1 ont été écrits, le premier chapitre, il est écrit là-bas « Révélation de Jésus-Christ ». Et quand il est dit « Révélation de Jésus-Christ », cela signifie « Dévoilement de Jésus-Christ ». Alors, il faut qu'il soit à voir, il faut qu'il soit, si lui, il a été révélé, alors il faut qu'il soit vu, si lui, il a été dévoilé, alors nous devons le voir tel qu'il est. Si nous ne le voyons pas, c'est qu'il ne nous a pas été révélé et que ce n'est pas une révélation de Jésus-Christ. Il en va ainsi pour tout. Si Dieu nous a révélé quelque chose, nous devons le voir clairement, ne pas le voir flou, mais le voir clairement et distinctement. Jean, qui a eu la révélation de Jésus-Christ, a vu celui qui lui a été révélé. Alléluia! Il a vu marcher au milieu des 7 chandeliers d'or. Il vit les 7 étoiles dans sa main droite. Il l'entendit parler d'une voix puissante. Ce n'était pas seulement la parole, le mot révélation, c'était une chose qui a été révélée, qui était révélée. Et je crois que nous pouvons en témoigner de la même manière que nous avons, que nous, tel que cela a été témoigné à l'époque. Quand frère Branham utilise le terme révélation, alors nous savons ce que cela signifie. Ce qui était caché auparavant. Mais la chose était là. Seulement, elle était cachée. Et ensuite, elle a été révélée. Si elle se révèle, si elle est révélée, alors tu vois la chose qui a été révélée. Je veux dire que c'est quelque chose de précieux. Nous n'avons pas seulement le terme révélation, le mot comme ça dans les Saintes Écritures, nous l'avons aussi souvent utilisé nous-mêmes. Paul écrit d'ailleurs aux Éphésiens, ce qui était auparavant caché au fils des hommes, ce qui était resté caché au fils des hommes, c'est ce qu'il a maintenant révélé à ses saints apôtres et prophètes. Révélé. Tout ce qui est divin est fondé sur la révélation. Et la foi conduit à cette révélation, dans cette révélation. Et la foi en Jésus-Christ conduit à la révélation de Jésus-Christ. Nous le voyons tel qu'il est. Qui il est. Nous le voyons marcher au milieu des sept chandeliers d'or. Nous l'entendons parler et comprenons ce que signifie l'expression que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est par l'Esprit que Dieu a inspiré ses esclaves, ses serviteurs et ses prophètes. Je vais vous dire que c'est là que réside le secret. Beaucoup, à leur époque, n'entendaient que Paul et disaient même, mais il ne peut pas parler du tout. Qui est-il d'ailleurs? Il ne sait même pas parler et il pensait que oui, c'est bien, c'était Paul. Puis, il y en a eu d'autres auxquels Paul a pu écrire. Vous n'avez pas reçu la parole que nous avons annoncée comme une parole d'homme, mais comme une parole de Dieu, ce qu'elle est en effet, en réalité. Les uns voyaient l'homme, les autres voyaient l'œuvre de Dieu dans leur temps, le message de Dieu, la révélation de Dieu, la parole de Dieu. Pour eux, c'était la révélation. Les autres ne voyaient que l'enveloppe extérieure. N'en était-il pas ainsi pour notre Seigneur et pour tous les prophètes? La masse n'a-t-elle pas dit, nous le connaissons, et ses frères et ses sœurs habitent pourtant avec nous ici? D'où tient-il donc cette autorité et ses pouvoirs de miracle? Ils le connaissaient selon la chair. Mais non selon l'esprit, de sorte que notre Seigneur a dû s'écrier, qui sont mes frères? Qui sont mes sœurs? Et il n'a pas attendu que quelqu'un réponde. Il a donné la réponse. Tous ceux qui font la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, ceux sont mes frères, ceux-là sont mes frères et ceux-là sont mes sœurs. Parfois, nous donnons la réponse et n'attendons pas qu'il la donne, que lui, il la donne. L'idée, donc la pensée que Dieu nous ait révélé sa parole avec une clarté comme un cristal me submerge, m'enthousiasme, me touche. Et ce n'est pas une simple revendication ou bien prétention, c'est une réalité. Je le répète, nous ne vivons pas à l'époque où les hommes sondent et font des recherches et interprètent. Je n'ai rien contre. Celui qui lit les traités de Martin Luther sur l'Épître aux Romains doit tirer son chapeau. Il doit simplement dire que l'homme, cet homme, a puisé à une source comme il n'en a jamais existé sur terre. Nous l'admettons. Mais quand il s'agit de la révélation, nous devons dire que ce n'était pas encore le temps, le moment autrefois. Mais maintenant, c'est le temps de la révélation divine de toutes choses. Et nous en sommes reconnaissants. Quand Dieu parle, son discours est clair. Sa parole est claire. Quand il révèle quelque chose, c'est clair aussi. Il n'est alors pas nécessaire de s'instruire les uns les autres, que l'un instruise l'autre. Non. Enseigne l'autre. Alors nous sommes tous enseignés par Dieu et de Dieu. Et nous voyons la même chose par le même esprit, sur la base de la même parole. Ce qui nous a été lu ici, dans Éphésiens 2, correspond au cœur de la prédication. Que se passerait-il si nous parlions de la révélation et devions nous souvenir d'Ésaïe 28, lorsque Dieu a dit au prophète, « À qui enseignerais-je ? Enseigneras-tu la révélation ?» Toute table est pleine de vomissements et d'ordures et ainsi de suite jusqu'à la dernière place. La révélation ne peut être enseignée, transmise, que là où les hommes entrent dans le sanctuaire de Dieu, laissant derrière eux dehors tout ce qui leur est propre et sachant que le rideau s'est déchiré, que l'arche de l'Alliance a été rendue visible. Et là, ce n'est plus un homme qui parle, là, c'est Dieu qui s'adresse aux hommes. Cela aussi, nous l'avons compris. Ce n'est pas le temps où les hommes parlent de Dieu. Non, maintenant, c'est le temps où Dieu nous a parlé par l'intermédiaire d'un prophète. Nous en sommes reconnaissants. De la même manière, nous devons dire que beaucoup l'ont entendu, que beaucoup ont été enthousiasmés et que beaucoup utilisent l'expression « le prophète a dit ». Et même avec cela, nous ne pouvons pas faire de progrès et aller de l'avant. Tout ce que le prophète a dit venait de la parole de Dieu et ramène à la parole de Dieu, dans la parole de Dieu. Celui qui a cette révélation, que c'est un cercle divin, car c'est ce qui est écrit dans le prophète Ésaïe. La parole qui est sortie de ma bouche ne reviendra pas vers moi à vide, sans produire son effet. Elle revient, mais pas à vide. Elle revient en ayant produit l'effet pour lequel Dieu l'a envoyé et exécuté sa volonté. En tout temps, chaque fois que Dieu a donné un message, il y a eu des hommes qui l'ont accepté et d'autres qui l'ont rejeté. Et tous ceux qui l'acceptaient ont ainsi confirmé que Dieu est vrai. Ils n'ont pas seulement cru en Dieu, ils ont cru Dieu. C'est là que réside aujourd'hui la grande question. Si vous pouviez demander au diable, « Crois-tu en Dieu ?» Aucun ne répondrait plus vite, plus rapide et plus fort par oui que lui. C'est écrit dans Jacques, « Tu crois qu'il y a un Dieu, tu fais bien de le croire, mais les démons, le diable aussi croient et tremblent. » Croire en Dieu est une chose très connue. Mais qui est prêt à croire Dieu? Oui, comment puis-je croire Dieu? En croyant ce qu'il a dit. Et qu'a-t-il dit? Comment l'a-t-il parlé? Comment l'a-t-il dit? Oui, voici ici, dans la Bible, voilà. Voilà le livre, c'est ici que Dieu a parlé. C'est ici la parole de Dieu. Voilà ce que Dieu a dit dans ce livre. C'est ainsi que nous reconnaissons et comprenons pourquoi notre Seigneur a dit, « Mes brebis, entendre ma voix. Du haut de combien de chairs ce verset biblique est également prononcé. Mais dans le monde entier, tous ceux qui se tiennent devant peuvent lire n'importe quel passage de la Bible, de la chair, n'importe quel. Le pasteur et qui que ce soit, d'autres, tous peuvent dire n'importe quoi, mais pour bien entendre ma voix. À la différence que l'un est un peu plus d'impression d'onction, l'autre un peu plus lent, le troisième un peu plus rapide. Mais qu'est-ce que c'est vraiment? Seuls ceux qui sont vraiment devenus les brebis de son pâturage le comprennent. Seulement le comprennent ceux qui sont nés de lui et qui sont devenus réellement participants de la nature divine. L'Écriture sainte est lue partout. Nous remarquons comment même les politiciens s'approprient des versets bibliques. De quel droit le font-ils même d'ailleurs? Les personnes qui croient en la parole de Dieu reçoivent sa révélation. Parce qu'ils la croient, elle leur est révélée. La parole leur est révélée. Ils reçoivent par cela un lien avec Dieu, par la parole. Nous l'avons souvent souligné, par la proclamation de la parole de Dieu, les gens sont mis en relation avec Dieu. Pas avec une chose, mais avec Dieu. Et ensuite, avec Dieu, dans la chose. Et donc, ensuite, avec Dieu, conduit dans la chose de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, dans ce que Dieu fait. Cela aussi est très important. Nous l'avons également mentionné. Lorsque Jean a été envoyé, il avait pour mission de préparer le chemin du Seigneur. Pas à lui-même, mais au Seigneur. Préparer le chemin de l'Éternel. Aplanissez la route pour notre Dieu. Non pas qu'un prophète se ferait lui-même un chemin pour ensuite réussir, mais frayez la voie au Seigneur. Aplanissez une route pour notre Dieu. Tout ce qui est élevé doit être abaissé. Tout ce qui est bas doit être élevé. Dans quel but? Pour que la gloire de Dieu puisse être manifestée. C'est tout ce que voulait et devait faire Frère Branham. Pas plus. Comme un précurseur avant la seconde venue de Jésus-Christ, il devait frayer un chemin au Seigneur et ôter les obstacles du chemin et écarter les obstacles pour le peuple de Dieu, pour qu'il puisse suivre le Seigneur. Car cela est aussi écrit, écarter, ôter, enlever tout obstacle du chemin. Et là aussi, il y a eu beaucoup de choses à nettoyer, à écarter, à ôter. Il y en aura certainement encore à ôter, à mettre de côté, à ôter. Et pour cela, Dieu doit nous accorder sa grâce. La parole, ici, dans Éphésiens 2, à partir du verset 4, par exemple, Frère Branham a utilisé ce verset pour une prédication. Il est dit ici, « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimé. Et en effet, alors que nous étions morts, Éphésiens 2, maintenant le verset 5, par nos offenses, nous avons été en même temps rendus vivants avec le Christ. C'est par la grâce que vous avez été sauvés. Quelle parole merveilleuse. Paul avait également reconnu ce mystère. L'épouse était dans l'époux. Elle est morte avec lui, crucifiée avec lui, enterrée, ensevelie avec lui, ressuscitée avec lui pour marcher en nouveauté de vie, pour une nouvelle vie. Et que dit là Frère Branham et aussi les Saintes Écritures? Nous n'avons pas besoin de le mentionner si souvent, car il n'a rien dit d'autre que ce que dit la parole de Dieu. Tous ceux qui seront sauvés un jour l'ont déjà été à Golgotha. C'est là que la rédemption a été accomplie. Maintenant, c'est à nous de... C'est notre devoir. Comme nous ne savons pas qui Dieu sauvera. Nous devons partir dans le monde entier, aller dans le monde entier pour annoncer l'évangile, afin que tous ceux qui sont destinés au salut soient sauvés. Et c'est pourquoi l'Écriture sainte dit aussi, dans le prophète Ésaïe, « Laissez-vous sauver, vous extrémités de la terre, et toutes les extrémités de la terre doivent voir le salut qui vient de notre Dieu. » Je vais vous dire une chose aujourd'hui. Même ce que nous venons de lire doit nous être divinement révélé et transfiguré par l'Esprit. Sinon, nous passerons notre vie à demander notre salut, à demander notre justification, une justification, à demander pardon, jusqu'à ce que nous soyons finalement désespérés sur notre lit de mort. Et Dieu ne veut pas cela. Il doit nous être, cela doit nous être révélé par Dieu. Aussi certainement que Jésus-Christ a souffert, est mort, a été crucifié et a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures, nous étions donc certainement en lui. Car il est écrit qu'avant même la fondation du monde, Dieu nous a choisis d'avance en Christ et nous a prédestinés à être des fils et des filles. Ça, ce sont les pensées que Paul a clairement exprimé dans ses lettres, dans ses épîtres, dans la lettre aux Éphésiens. Est-ce que c'est devenu une révélation divine pour toi? Est-ce que c'est réel par révélation que tu es mort avec Christ, que tu as été crucifié avec lui, que tu as été enseveli et enterré avec lui et que tu n'existes plus du tout, que tu ne vis plus du tout? Mais que Christ veut vivre sa vie en toi et en moi. Il y a alors des gens qui confondent le divin et le spirituel avec l'humain terrestre et ils arrivent toujours à un conflit de conscience et le diable veille à ce qu'il tourne, en rond. J'ai aussi réfléchi à cela aujourd'hui et j'ai regardé dans mon album dans lequel j'ai beaucoup de photos de frère Branham et je l'ai vu en tenue de cow-boy. Une fois avec un fusil, une fois avec le gibier abattu, quel qu'il soit, une fois comme ça, mais vraiment, une fois bien avec une barbe qui avait 3 semaines. Et puis, j'ai pensé que si les prêtres et les évêques, les grands prêtres là, voyaient un homme dans une telle forme, hein, dans un tel format, et quelqu'un aurait l'idée de dire au grand prêtre, « Sais-tu que c'est un prophète de Dieu qui marche maintenant là ?» Le livre de prière tomberait des mains de l'homme, de cet homme, qui prendrait la fuite en disant, « Écoute, je crois que tu t'es complètement trompé. Tu as dû penser à quelqu'un d'autre. Ça ne peut pas être un prophète. » Non, nous ne parlions pas d'un autre. Qu'est-ce que je veux dire? Un prophète de Dieu. Et pourtant, les deux pieds sur terre. Et c'est ce qui nous manque. Nous aimerions parfois avoir les pieds au ciel et être sur terre avec le cœur au lieu de rester sur terre avec les deux pieds et d'être au ciel avec le cœur. Nous avons mis certaines choses à l'envers. Et c'est pourquoi nous avons tant de difficultés avec nous-mêmes et entre nous. J'ai ri hier soir. Il y avait des raisons de le faire. Je n'avais pas ri depuis des mois, mais hier soir, j'ai ri. Parce qu'il y avait une raison. Et je me suis dit en moi-même, que diraient les gens s'ils me voyaient maintenant qu'après des années, j'ai une raison de me courber un peu parce que j'avais des raisons d'être heureux et de rire. Nous devons rester hommes, humains. Nous devons savoir où se situe le domaine terrestre et où se situe le domaine divin. Je le répète. Si quelqu'un, et vous pouvez le faire, on l'a vu autrefois, les gens allaient avec le livre de prière, la longue robe, la tête était là, ils regardaient par-dessus le livre, ils connaissaient toutes les prières par cœur. Mais si quelqu'un disait, d'un point de vue terrestre, que le caïf qui est décoré comme un Père Noël, ça pourrait être la bonne personne. Mais cet homme-là, habillé en cow-boy, ici, un vrai, comme ça, élégant comme on peut en avoir au Texas, et que cela devrait être un prophète, en habit de cow-boy, je vais vous le dire aujourd'hui, il était plus qu'un prophète. Il n'a pas seulement prophétisé. Jean, lui, n'a pas prophétisé. Il a placé la prophétie sur le chandelier. Il a montré la prophétie biblique dans son accomplissement et sa réalisation. Les prophètes en ont parlé. Jean a pu montrer comment cela s'est réalisé. Il en était de même avec le ministère de Frère Branham, prophète et apôtre. Notre Seigneur aussi, tous ont parlé des derniers jours et Dieu a envoyé un homme. Pas seulement un prophète qui annonce les choses à l'avance, mais un prophète qui a mis sur le chandelier, qui a mis en lumière, ce qui a été annoncé, ce qui a été prophétisé. Il a placé sur le chandelier afin que tous ceux à qui Dieu le révèle puissent le voir. Les choses peuvent être montrées par Dieu aussi clairement que possible. Et cela, à moins que Dieu ne nous ouvre les yeux, sinon nous ne voyons pas. Regardez, lors de la première venue du Seigneur, il était pourtant écrit dans le prophète Ésaïe, chapitre 35, l'Éternel, ton Dieu, viendra et le salue avec lui, et ainsi de suite. Et alors les aveugles verront, les boiteux marcheront, et la langue du muet parlera. Tout était pourtant écrit à l'avance. Cela s'est produit, cela était au milieu d'eux. Et pourtant, ils ne l'ont pas remarqué. Puis le Seigneur donna la parabole et dit, je suis venu dans le monde pour que les aveugles voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. Et déjà les scribes se sentaient interpellés et se disaient entre eux, est-ce qu'il veut parler de nous, que nous soyons aveugles? Et c'est alors que le Seigneur a donné la réponse. Il a discerné leurs pensées et a dit, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais parce que vous pensez voir vos péchés, c'est pour ça que vos péchés demeurent, vos péchés restent. Qu'est-ce que c'était? Les hommes pensaient qu'ils avaient la vue d'ensemble et le discernement. Que en fait, seul Dieu peut donner. Et il faut avoir été désigné par Dieu pour cela, déterminé par Dieu pour cela. Personne ne peut dire, bon, alors, cher Dieu, maintenant je suis ici et maintenant je me mets à l'œuvre et ensuite je souhaite ton aide. Ce n'est pas possible ainsi. Dieu doit appeler. Dieu doit mandater. Dieu doit donner des services. Dieu doit révéler ce que nous devons faire. Et ensuite, nous n'avons qu'à suivre l'Esprit de Dieu. Rien d'autre. C'est tout ce qu'il faut faire. Et nous ne devons rien ajouter à ce qu'il a dit. Que Dieu nous révèle donc aujourd'hui ce qui est écrit ici. Or Dieu, il relit le verset 4 de Éphésiens 2, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Et en effet, alors que nous étions morts par nos offenses, nous avons été en même temps rendus vivants avec le Christ. Combien croient que Jésus-Christ est ressuscité des morts? Combien croient que nous sommes ressuscités avec lui? C'est pourtant le mystère. Oui, me direz-vous, mais nous attendons encore le changement de notre corps. Paul l'attendait aussi. Et pourtant, il a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et il a dit, quand viendra le temps où nous nous débarrasserons de notre enveloppe mortelle, nous aurons un édifice construit de la part de Dieu. Il a su situer tout cela correctement et nous devons faire de même. Et ici, il souligne ensuite, à la fin du verset 5, « C'est par la grâce que vous avez été sauvés. » Amen. C'est par grâce. Et plus loin, il est écrit, au verset 6, « Il nous a ressuscités ensemble avec lui dans le Christ, Jésus, et nous a transportés avec lui dans le monde céleste. » Oui, mais est-ce que c'est vrai ce que je lis ici? Je ne lis pas du miroir ou bien du magazine de l'étoile. Je lis de la parole de Dieu, d'Éphésiens 2, verset 6. Des paroles précieuses et vraies de Dieu. Mais les paroles doivent pour nous devenir une révélation pour que cela s'allume en nous, un feu. Et c'est ce qui nous fait défaut. Nous entendons la parole et elle ne nous submerge pas, elle ne nous touche pas, elle nous enthousiasme. Nous devons nous efforcer pour dire parfois un amen ou un alléluia. Je souhaiterais que le temps arrive où nous aurions du mal à arrêter, à empêcher notre amen de sortir un alléluia, hein? Que le vent tournerait totalement. Quelqu'un, je peux le dire, c'était dimanche dernier à Zurich. Deux dames sont venues et ont dit, Monsieur Franck, nous venons pour la première fois, mais nous voulons vous dire que nous n'avons que très peu de temps. Et ne soyez pas, ne nous en voulez pas si nous levons et sortons au milieu de votre exposé. Cela ne veut donc rien dire. Nous avons une obligation. Et j'ai dit, mesdames, sentez-vous aussi libres que possible, mais prenez votre place près de la sortie. J'ai dit cela avec amour et je le pensais vraiment. Et elles se sont effectivement toutes deux levées au milieu de la prédication. Parce qu'une réunion avait commencé une demi-heure ou trois quarts d'heure plus tard dans la maison du peuple, dans une autre salle. Mais elle n'avait pas besoin de me le dire. Personne n'a besoin de me dire quoi que ce soit, et encore moins de me dire tout. Je ne vais pas non plus tout dire prochainement. Mais que je puisse vous dire, quelques minutes passèrent et voilà, je ne sais pas si c'était 10 ou 20 minutes. On ne regarde pas l'heure ici quand on prêche. On est en partie transporté dans l'éternité et on n'est plus dans le temps. Mais j'ai tout de même compris cela. Les deux dames sont entrées dans la salle, la tête baissée, après être sorties, hein, comme elle avait annoncé. Elles se sont assises et la parole du Seigneur les a interpellées. Et saisie. Et à la fin de la réunion, elles sont venues, toutes les deux devant. On pouvait voir les larmes suivre leur cours sur les joues. Elles ont dit, Monsieur Franck, nous ne vous connaissions pas, nous voulions assister à une autre réunion. En fait, nous avons seulement lu l'annonce dans le journal, mais les quelques minutes passées là-bas nous ont montré la différence. Nous sommes revenus, s'il vous plaît, pardonnez-nous. Ici, la parole de Dieu est prêchée. Dieu est toujours à l'œuvre et tout lui est soumis. Quelqu'un a dit, ou quelqu'un a aussi fait la remarque, et dit, frère Franck, ça ne te dérange pas si quelqu'un sort pendant la prédication? Non, j'ai dit, et je vais te dire pourquoi. Parce que je sais très bien que la page va se tourner et que le temps vient où les gens ne sortiront pas pendant la prédication, mais entreront pour entendre la parole du Seigneur. Le temps arrive. Le temps vient. L'Esprit de Dieu agira encore puissamment. Mais ce n'est pas nous qui mettons tout cela en place. C'est effectivement l'Esprit de Dieu. Et que souhaiterions-nous de plus que d'être nous aussi saisis d'une nouvelle manière? N'avez-vous pas parfois l'impression que l'hiver est entré dans l'église et que tout est un peu enrhumé. Et n'y aurait-il pas un printemps nécessaire, une chaleur, un renouveau, un surgissement de la vie nouvelle? Tout cela ne nous ferait-il pas du bien à tous? J'ai une parole de l'Ancien Testament où Dieu s'adresse au peuple d'Israël dans Osée. Osée, chapitre 5, les dernières lignes, puis au chapitre 6, Dieu dit, Osée 5, verset 15, « Je m'en irai, je retournerai à ma demeure jusqu'à ce qu'ils se sentent coupables et qu'ils cherchent ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront un désir sincère de me voir et diront, venez, le chapitre 6, maintenant, verset 1. Revenons à l'Éternel, car il nous a déchirés et il nous guérira. Il nous a frappés et il nous pansera. Déjà après 2 jours, il nous rendra la santé. Le troisième jour, il nous rétablira. Rétablira afin que nous vivions sous son regard. Autre traduction dit, pour que nous ayons une nouvelle vie, une nouvelle vie. Gloire à Dieu. Un jour auprès de Dieu est comme nos 1000 ans. Le prophète a prophétisé par inspiration de l'Esprit au bout de 2 jours, c'est-à-dire après 2000 ans. Et ce temps est maintenant presque écoulé. Je me tournerai de nouveau vers eux. Et le troisième jour, je les ferai revivre. Je les relèverai. Il est écrit ici déjà, au bout de 2 jours. Il nous fera guérir. Le troisième jour, il nous relèvera. Nous nous rendons alors compte que nous ne sommes peut-être pas si bons que ça avec tous nos calculs. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des mathématiciens qui ne savent pas seulement extraire des racines, mais qui extraient aussi certaines racines. Certaines dents, n'est-ce pas? Mais aussi la dent de sagesse. Lisons ici les Saintes Écritures. Au bout de 2 jours, après 2 jours, il nous laissera guérir. Et le troisième jour, il nous remettra sur pied pour que nous puissions vivre sous son regard. Amen. C'est la sainte parole de Dieu. Alors oublions tous les calendriers, le nôtre et celui des autres, et croyons ce que dit la parole de Dieu. Ne comptons sur rien du tout, mais uniquement sur l'accomplissement de la prophétie biblique, sur le retour de Jésus-Christ. Qui veut compter des années? Bibliquement, il s'agit de 260, nous calculons 365. Quelle différence y a-t-il entre 1 ou 2 000 ans? Oublions tout, calcul. Ne comptons que sur Dieu, sur l'accomplissement de sa parole, sur l'appel de son épouse à sortir, l'épouse église, sur la préparation, sur l'attention apportée à Israël, car c'est à eux que cette parole est adressée. Ici, après 2 jours, déjà, il nous fera guérir. Gloire à notre Dieu. Tout s'accomplit sous nos yeux. Revenons à cette parole que nous avons déjà mentionnée plusieurs fois. Je ne fais que la citer et j'en reviens aux Éphésiens. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Cela ne veut pas dire qu'il y avait en lui un vide ou une connaissance, un enseignement plutôt, pardon, ou une connaissance. Il y avait en lui la vie de Dieu était en lui. Et si l'on lit 1 Jean 5, verset 20, il est écrit, « Il est le Dieu véritable et la vie éternelle. » La vie était en lui. Et la vie était la lumière des hommes. Non pas les miracles, non pas les signes, non pas, mais la vie divine était le témoignage divin ici sur terre. Et lorsqu'il nous est dit que tout ce qui était en Dieu se déversait dans le Christ et que tout ce qui était en Christ se déversait dans l'Église. Nous ne pouvons que nous réjouir et nous attendre à cela, mes bien-aimés frères et sœurs. Nous devons clairement nous attendre à cela. Ce que nous n'ayons pas seulement un enseignement, c'est-à-dire une instruction. Nous sommes reconnaissants pour cela, mais aussi pour le fait que la vie divine peut être manifestée avec une autorité divine, avec une puissance divine. Et le Seigneur a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et savez-vous qu'il a dit la même chose dans son corps terrestre en tant que fils de l'homme? Jean 5, verset 19. Le Fils ne peut rien faire de lui-même que ce qu'il voit faire le Père. C'est ce que le Fils fait pareillement, de la même manière. Qui sommes-nous alors pour pouvoir faire quelque chose ou pour savoir ce que nous devrions faire? Il y a des gens qui savent toujours. Quand le programme ne marche plus, puis un autre et encore un autre, ils savent toujours exactement ce qui est demandé. Mais nous ne sommes ni nés de nouveau pour cela. Nous savons que nous devons rendre des comptes à Dieu. Et lorsque j'ai reçu aujourd'hui l'appel concernant le décès de notre frère, je me suis souvenu de cette parole du psaume. Considère que tu dois mourir afin que tu deviennes intelligent. Seul l'homme qui comprend qu'il doit mourir un jour, qu'il a à apparaître devant un tribunal, à lui la sagesse divine lui sera accordée. À ce moment-là, tous les autres vivent comme s'il n'y aura jamais eu de responsabilité devant Dieu et il n'y aura jamais de compte à rendre. Souviens-toi que tu dois mourir afin que tu deviennes sage. Revenons ici à notre parole. La vie divine ne peut que se manifester qu'après notre mort, qu'après la mort du vieil homme. C'est pourquoi il est écrit qu'il a mis en lumière la vie éternelle et la nature incorruptible. De Timothée 1, 10, 9, 10. Oui, où? En qui? Où Dieu habite-t-il aujourd'hui? Certes, on peut dire que le trône de Dieu est dans le ciel et que Dieu habite dans le ciel, c'est vrai aussi. N'est-il pas écrit que Dieu habite avec ceux aussi qui ont l'esprit humble et le cœur brisé? N'est-il pas écrit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux et je serai leur Dieu? N'avons-nous pas suffisamment de promesses dans la parole de Dieu qui nous montre clairement que Dieu n'est pas seulement dans le ciel, mais aussi sur la terre? Mais si quelqu'un me dit que s'il veut trouver Dieu, il doit alors aller dans la nature. Oh, j'aimerais pouvoir dire du fond du cœur, si tu veux trouver Dieu, viens dans l'église, viens à une réunion, à un service divin. Ce serait bien si nous pouvions dire aux gens, vous voulez vivre cela un jour? Je veux vivre cela. Si je veux faire l'expérience, si quelqu'un me dit, si je veux trouver Dieu, je vais dans la nature, alors je veux pouvoir lui dire, cela brûle dans mon cœur, j'aimerais lui dire que ça brûle dans mon cœur, je voudrais pouvoir lui dire, alors, si tu veux trouver Dieu, viens à Jésus-Christ, viens faire l'expérience de Dieu, avec Dieu, qui s'est révélé en Christ. Nous l'avons également souligné à maintes reprises. Nous ne pouvons rencontrer Dieu que là où il nous a rencontrés. Dieu ne se révèle à nous que là où il s'est révélé à nous, c'est-à-dire en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et si quelqu'un pense avoir une révélation de Dieu qui passe à côté du Christ, cela n'existe pas, cela ne va pas du tout. Christ est la révélation de Dieu. 1 Timothée 3, verset 16. Le mystère de la piété est grand. Dieu, révélé dans la chair, justifié en esprit, et ainsi de suite. Quand? En Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est donc par grâce que nous avons eu cette révélation. Maintenant, passons brièvement au verset suivant. Éphésiens 2, verset 6, la deuxième partie. et nous a transportés avec lui dans le monde céleste. Vous pouvez croire cela? Nous qui marchons parfois, qui marchons ici deux pieds sur terre, comme parfois, comme si nous aurions un boulet au pied et nous n'avançons pas vraiment. Et puis nous aurions été transférés avec le Christ dans le monde céleste. Aujourd'hui, nous devons décider si vous voulez croire ce qui vous entoure et ce que vous voyez, ou si vous voulez croire ce que Dieu a dit et a fait. Que voulez-vous croire aujourd'hui? Qui est-ce que vous voulez croire aujourd'hui? En vous? Les circonstances, les épreuves, les problèmes? Ou bien alors tout ce que Dieu a dit ici, dans sa parole? Je crois que nous avons pris cette décision de ne pas croire seulement en Dieu, mais de croire Dieu. Et plus précisément, de croire ce qu'il a dit et ce qu'il a fait. Il nous a ressuscités avec lui en Christ et nous a transportés avec lui dans le monde céleste. Alléluia! Gloire à Dieu! Cela est vrai! Cela est à 100% vrai! Car c'est ainsi que les Écritures disent. Les Écritures le disent. Il n'y aura pas d'autre rédemption. Une œuvre parfaite a été accomplie à Golgotha. Qu'est-ce que nous attendons? Et pour cela aussi, je suis très reconnaissant à Dieu que Paul, cet homme, ait écrit non seulement Romains 8, mais aussi Romains 7. Je suis reconnaissant à Dieu de ce que cet homme pouvait écrire. Nous sommes scellés pour le jour de la rédemption de notre corps. Nous sommes rachetés, mais en espérance. Et nous attendons. Car une espérance qui est, et nous l'attendons, car une espérance qui est déjà vue n'est plus une espérance. Donc nous devons donc attendre que la totalité soit entrée dans l'Église. Et alors le Seigneur reviendra avec la trompette de Dieu, avec la voix de l'archange. Alors les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous qui sommes encore en vie et qui restons, nous vivrons le changement de nos corps. Savez-vous ce qu'il faut dire ici? Beaucoup s'attendent à ce que leur corps soit changé sans que leur âme, n'ait même pas encore changé. Et ils ne comprennent pas que d'abord l'âme doit être changée avant que le corps puisse être changé. Donc première chose, il faut que notre âme, notre cœur, Dieu n'a-t-il pas dit, je vous donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau, une vie nouvelle, et le changement de notre corps viendra quand l'heure de Dieu aura sonné pour cela. Et cela allait même au-delà de l'époque. D'autrefois, au verset 7, il est écrit dans Éphésiens 2, verset 7, pour manifester dans les siècles à venir l'abondance, richesse de sa grâce par la bonté envers nous en Jésus-Christ. Car, le verset 8, c'est par la grâce que vous avez été sauvés, sur la base de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Non, c'est le don de Dieu. Quand on reçoit un don, un cadeau, et qu'on est assez poli, on l'accepte et on remercie. Je crois que ce que nous devrions tous faire, c'est de remercier Dieu du fond du cœur de nous avoir fait un cadeau. Imaginez-vous que tout ce qui nous séparait de Dieu, notre Rédempteur l'a ôté de nous et s'en est chargé. Et tout ce qui nous relie à Dieu, il nous l'a donné par grâce à nous, les rachetés. Qui a encore des mots à dire? Qui peut encore prêcher un message glorieux, un message de Dieu, un message de salut, un message de grâce, un message d'amour, de rédemption et de puissance? Comment Dieu ne nous donnerait-il pas tout avec lui? Lui qui n'a pas épargné son Fils, non pas en raison des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Le verset 9, non pas à cause des œuvres afin que personne ne se glorifie, car c'est à lui que nous appartenons étant son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a prévues d'avance afin que nous puissions marcher en elles. Nous sommes donc l'œuvre de Dieu, l'ouvrage de Dieu, et Dieu a déjà préparé tout ce que nous devons faire pour lui et par lui, afin que cela puisse être fait. Il a déjà préparé pour que cela puisse être ensuite fait. En fin de compte, il n'y a plus d'homme qui puisse encore se glorifier devant Dieu de quoi que ce soit. Car même ce que nous faisons sous son ordre, en son nom, il a déjà préparé à l'avance pour que cela soit fait. Et c'est ainsi que s'accomplit une fois de plus l'Écriture. Et quand nous aurions même fait tout ce qu'il nous a ordonné, alors dites que vous êtes des esclaves serviteurs inutiles. Qui a été capable de faire la moindre chose? Qui? Nous sommes son ouvrage, son œuvre. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées a prévu d'avance. Tout. Permettez-moi de conclure en disant que tout est prévu d'avance par Dieu. Déterminé par Dieu. Christ, en tant qu'agneau de Dieu, était destiné à l'avance à mourir pour nous. Nous sommes destinés à être des fils et des filles de Dieu avant même la fondation du monde. Nous avons été destinés à l'être. Tout ce qui arrive à l'Église et se passe avec l'Église est prévu à l'avance. Dieu a même déjà déterminé qu'à la fin, une Église sans tache et sans ride se tiendra devant son trône irréprochable, sans rides, parfaite. Jean n'a-t-il pas vu les différentes images sur l'île de Patmos, que ce soit Apocalypse 7, Apocalypse 15, Apocalypse 19, partout, il a déjà vu des choses dans leur forme achevée qui étaient encore loin d'être là, mais aux yeux de Dieu, tout est déjà là. La foule innombrable que Jean a vue sera là, mais il a déjà vu, parfaite, sans tache, sans ride. Personne ne manquera. Tout le monde sera là. Tous ceux qui ont vu en Apocalypse, dans Apocalypse 15, après devant la mer, donc sur la mer de cristal, ils seront là. Tous ceux qui l'ont vu dans Apocalypse 19, quand il a été dit, maintenant les noces de l'agneau sont arrivées, soyez dans la joie et l'allégresse et donnez gloire à Dieu. Jean avait vu tout cela à l'avance. Et pourtant, déjà, il a vu déjà comme accompli, et pourtant c'est encore dans le futur. Et il a vu comme si c'était déjà passé, comme si c'était déjà là. Avec Dieu, il n'y a ni passé ni à venir. Avec Dieu, tout est toujours présent. Il est le je suis, achevé pour l'éternité. Cela nous donne la foi, nous fortifie, cela nous rend heureux, cela nous rend reconnaissants de savoir rendre gloire à notre Dieu sans trop d'efforts. Il a déchiré l'acte de séparation, de condamnation, effacé les inimitiés. Il a fait la paix avec nous, la paix avec Dieu, et a fait de nous les artisans de la paix, des gens qui procurent la paix. Cela aussi, c'est la preuve authentique d'un homme qui a trouvé la paix avec Dieu. Celui qui a trouvé la paix avec Dieu entre dans une maison et dit que la paix de Dieu soit avec cette maison. Combien sont-ils là? Absolument, des croyants qui peuvent dire de tout cœur, lorsqu'ils entrent dans une maison, qu'ils peuvent souhaiter à cette maison la paix divine que Dieu leur a eux-mêmes donnée. Qu'ils puissent la souhaiter à cette maison dans laquelle ils rentrent. Et quand il y a des gens de paix, cette paix, c'est-à-dire la substance, n'est pas seulement une parole, la paix. La Bible dit alors la paix demeure. Pas seulement le mot paix, mais alors la paix elle-même demeure en tant que substance. Mais si la paix doit rester, alors il faut l'apporter, il faut pouvoir la procurer, la donner, n'est-ce pas? Oui ou non? Mais mes frères et sœurs, le temps est là où toutes ces paroles-là doivent devenir une réalité divine dans nos vies. Si nous parlons d'amour, l'amour doit être là. Si on parle de paix, elle doit être là. Les choses que Dieu nous a promises dans sa parole et qu'il nous a données en Christ doivent devenir réalité divine. Les paroles, tout le monde les attendait, l'ont. Mais Dieu attend de nous des actes. Et nous venons d'entendre qu'il a déjà préparé à l'avance pour nous les actes que nous devons accomplir. Pourquoi le répéter encore une fois? Je le fais pour que personne ne se mette à faire des efforts pour avoir l'air particulièrement pieux. N'est-ce pas? Non. Ce n'est pas ainsi que nous y parviendrons. Mais croire de tout cœur que ce que Dieu nous a donné est vrai. Que c'est une substance. La paix n'est pas seulement un mot. La paix est une chose. C'est une composante. Il est notre paix. Amen. Il est notre réconciliation. Il est notre sanctification. Il est tout en tous. Et si nous l'avons, nous avons tout ce que Dieu nous a donné par le Christ. Et Christ est la parole faite chair. Et dans l'Église, c'est toute la parole qui doit devenir chair. Et le temps est venu. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Nous nous levons pour la prière. Nous inclinons nos têtes. Nous ouvrons nos cœurs. Et prions. S'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore pris consciemment la décision pour Christ, qui ne connaît pas encore un jour, ne peut pas parler d'un jour, d'une heure, d'une expérience, où il ne peut pas encore parler d'un jour, d'une heure, d'une expérience qu'il a faite avec le Seigneur, dans une heure dans laquelle il a rencontré le Seigneur, à qui, dans laquelle il a reçu la grâce, il a reçu la rédemption, le salut, il a expérimenté le salut, et expérimenté le pardon, reçu le pardon, atteint le pardon et par la grâce, par l'Esprit de Dieu. N'est-ce pas qu'il rend témoignage à notre esprit? Il n'a pas encore cette certitude par l'Esprit de Dieu qui rend témoignage à notre esprit d'être une propriété du Seigneur. Cher cœur, ce jour peut être le plus beau et le plus important de ta vie sur terre. Il peut le devenir. Le plus grand jour est celui où Jésus, pas une doctrine, pas une idée, pas une philosophie, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, entre dans ton cœur, dans ta vie, alors que nous sommes ici, dans le recueillement et l'adoration, devant la face de Dieu. Je voudrais demander si quelqu'un veut être inclus dans la prière. Levez brièvement la main et la redescendre. Merci à vous, merci beaucoup. Merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Y a-t-il encore quelqu'un? Merci. Y a-t-il encore quelqu'un? Merci. Père Céleste, tu as entendu la parole. Toute la prédication est enregistrée dans le ciel. Dieu fidèle, que pouvons-nous faire de plus que de transmettre ton offre de grâce, la parole de la croix, de la réconciliation, du pardon, du salut, de la grâce. Dieu fidèle, en tant qu'ambassadeur à la place de Christ, nous crions à tous, laissez-vous, soyez réconciliés avec Dieu, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Seigneur fidèle, et à nous tous, donne une nouvelle expérience. Une nouvelle visite céleste. Si Israël doit être vivifié après 2 jours, qu'en est-il de nous? Tu as donné un message vivant. Ta parole est esprit et vie. Nous l'avons reçu. Nous l'avons reçu. Et nous y avons cru. Puisse-t-elle maintenant susciter la vie divine en nous par l'esprit. Seigneur fidèle, bénis tous ceux qui ont levé les mains, tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, et nous qui voulons nous consacrer à nouveau à toi. Donne-nous la grâce, Seigneur fidèle, que tu puisses te manifester, si tu pouvais te manifester, confirmer ta parole, glorifier ton nom, bénis-nous ensemble de la richesse de ta grâce. Nous te confions tout. Nous te confions tous, vraiment tous, toute la troupe rachetée par le sang à toi et à la parole de ta grâce, comme Paul l'a dit dans Actes apôtres 20. À toi et à la parole de ta grâce, Seigneur fidèle, nous voici. Nous te remercions de nous avoir graciés, fait grâce, de nous avoir fait grâce. Les portes de la prison se sont ouvertes. Tu as mené la prison en captivité et tu nous as donné des dons aux hommes. Tu as donné des dons aux hommes. Tu as libéré les prisonniers. Tu nous as rendu la vue aux aveugles et la marche aux boiteux. Seigneur, nous te remercions pour cela et nous te prions de faire en sorte que tout ce qui est écrit dans ta parole et qui est destiné à l'Église puisse être manifesté en elle, c'est-à-dire en nous, en tous ceux qui t'appartiennent en tant que membres de ton corps. Seigneur, c'est notre prière. Tu l'as promis, tu le feras. Loué et exalté soit ton merveilleux et saint nom de Jésus. Amen.